présente. Messieurs, merci pour notre excellente université grégorienne. Bienvenue. Les frères Doyen nous a parlé de la fondation de l'université. Il a fait des noms. Sur votre gauche, à votre gauche, vous trouvez cette reproduction. Saint Ignace de Loyola, le fondateur de l'université, qui est aussi le fondateur de la Compagnie des Jésus. Et au début, l'institution fondée, c'était des collèges romains. On l'appelait comme ça, c'était une école de grammaire. On commençait avec des mouvements littéraires. Mais l'université grégorienne a pris ses noms par ce pape-là, le pape Grégoire XIII, qui a aidé la Compagnie des Jésus pour plusieurs raisons, mais surtout pour la fondation du collège romain. C'est sur le tableau l'image à votre gauche, là-haut, et il y a place le collège romain maintenant, et une école d'État, avec aussi des bureaux du ministère des biens culturels de la République italienne. Et alors, depuis cette période-là, on appelle le Collège romain ou Université grégorienne. Maintenant, après le 19e siècle, toujours simplement Université grégorienne. Après avoir introduit les pas, nous pourrons faire un peu des...
Non, point.
Oui.
Si.
Je ne sais pas lequel.
Celui-là,
oui.
C'est ça.
C'est le pape.
Il ne va pas être content, le pape. Hein. Que ce soit.
Vous avez visité la secrétaire d'État, aussi des dicastères, je crois, quelque autre chose.
Secrétaire d'État, effectivement, pour le conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, PISAI également.
Voilà.
Puis cet après-midi, donc, le dicastère pour le développement humain intégral.
Bon, alors j'utilise en anglais, mais je vais parler en français. Ça va? Alors, 15 minutes.
Ça chauffe.
Oui, mais on va attendre.
C'est la jeunesse. Hein.
C'est fait exprès, c'est pour clipper.
Voilà. Alors, souvent on parle du Saint-Siège. Mais qu'est-ce que c'est le Saint-Siège? Le Saint-Siège est les papes. Et pas simplement les papes, mais les dicastères, les personnes, les bureaux qui vont aider les papes dans la mission du pape lui-même. Par exemple, il est pape par Québec de Rome, mais les bureaux qui aident les diocèses de Rome ne sont pas les Saint-Sièges, ce sont les diocèses de Rome. Ou quand vous voyez la famille pontificale, les personnes plus proches du pape aussi dans les processions liturgiques. Ils sont familles du pape, mais pas curie romaine. Alors, nous allons parler de la curie romaine, qui sont les organes, les congrégations, les secrétaires, les bureaux, etc., qui aident les papes dans les gouvernements universels de l'Église. Nous ne sommes pas intéressés au gouvernement local. Les mots curie romaine va être fondé de quelque manière au début des siens millénaires, oui, autour de l'11e siècle. On commence à utiliser les termes, les mots curie, qui de quelque manière est un synonyme des cours dans l'étymologie. cour et curie, c'est plus ou moins la même chose. On va faire une vraie distinction entre les deux, simplement entre les 19e et les 20e siècles. Et au début de la curie romaine, jusqu'au 19e siècle, nous avons des structures de la curie romaine, des structures liées au gouvernement de l'État ecclésiastique, de l'État de l'Église, et les autres structures vont aider les papes pour le gouvernement universel. Alors aujourd'hui, nous ne parlons pas de la structure de l'État. Maintenant, l'État est vraiment plus petit qu'en passé parce que c'est l'État cité du Vatican. Et il y a un gouverneur, le président du gouvernatorat, qui est un cardinal, mais au début, c'était un laïc aux années 30 du XXe siècle. Après, il y a eu une certaine manière, une cléricalisation aussi des charges de l'État de la cité du Vatican. Alors, au début, pardon, j'ai fait une introduction historique, c'est mon travail, les personnes qui étaient aidées, les papes, l'aider avec... je vais vous faire voir quelque chose. Non, c'est pas là. Alors, l'aider... Oui, c'est la dernière partie. L'aider, d'une manière plutôt collégiale. Il y avait des cardinaux qui se réunissaient avec les papes dans une réunion qu'on appelait les consistoires. Les consistoires, c'est la réunion de tous les cardinaux qui aidaient les papes à prendre des décisions au niveau politique et des nominations ecclésiastiques, c'est-à-dire pour nommer des évêques. Mais au XVIe siècle, les questions qui vont arriver sur les bureaux du pape sont toujours plus et plus. Alors il y a la nécessité à réformer la manière de gouverner. Aussi pour d'autres raisons. Parce que l'Église catholique, comme toutes les structures humaines, est très dynamique au-dedans d'elle. Quelle est la signification des dynamiques ? Qu'il y a souvent aussi des contrapositions, des divergences. C'est vraiment ça. C'est la dialectique. La dynamique n'est pas que dialectique. Alors, il y avait aussi des situations délicates entre les papes et les cardinaux, des contrapositions. Et les papes de l'époque, je parle du pape Sixte-V, pour mieux organiser la curie, mais aussi pour mieux gérer l'opposition parmi les cardinaux, a décidé d'organiser les cardinaux pas simplement dans un consistoire, hein, c'était une grande assemblée des cardinaux, mais dans des petites réunions des cardinaux. Des petites réunions. On appelle ces réunions des cardinaux des congrégations. On est congrégué. Alors, vous connaissez la congrégation pour la doctrine de la foi maintenant, ou la congrégation de propagande fine, propagation de la foi. Alors, ces congrégations-là ont été bâties à partir du 16e siècle. Il n'y avait pas. Hein. Il y avait quelques petites choses à la moitié du 16e. Mais les débuts réels, c'est 1588, avec une réforme. Hein. Jusqu'à ce moment-là, nous avons simplement la chambre apostolique, la chancellerie, les tribunaux. Et vous connaissez peut-être comme la Rota Romaine, peut-être que vous les connaissez pour les causes des mariages, mais en passé, il y avait une compétence plus large. Et les tribunaux de la pénitentiaire apostolique, qui est mieux connu, mais c'est le plus ancien tribunal de l'Église catholique, c'est le tribunal lié à la conscience. Quand il y a des cas de conscience très délicats, quand il y a les péchés réservés au Saint-Père, pour lesquels aussi les évêques ne peuvent rien faire, on doit les jusqu'à Rome, au tribunal de la vérité de Série, pour pouvoir avoir une absolution du péché. Et, par exemple, désacraliser l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, on fait une messe noire. Oh, il veut détruire l'Eucharistie. Oh, on cherche à tuer les papes. Alors, c'est vraiment les papes lui-même, c'était des tribunaux pour donner l'absolution. Et c'est aussi des autres exemples. Ce sont des matières réservées aux papes. Et une fois, il y avait aussi des matières réservées strictement aux évêques. Et par exemple, l'avortement, pour avoir la permission de l'absolution, on doit recourir aux évêques. Et l'évêque pouvait déléguer des prêtres. À Rome, tous les prêtres avaient la permission à donner l'absolution. Et depuis le pape François, tous les prêtres dans le monde. Alors, il y avait des péchés qui étaient retenus plus graves que les autres, qui étaient réservés à l'évêque ou au pape. Et la première série, c'était les bureaux, les tribunaux, parmi lesquels les papes exerçaient son pouvoir spirituel. Quand, vous trouverez souvent les clés dans la représentation aussi symbolique du pouvoir papal. C'est la clé du ciel et la clé sur la terre. Et la clé du ciel, c'est la clé liée au pouvoir spirituel. Alors, quand on parle du pape, après le 19e siècle, quand il a perdu ses états, on peut plus parler du pape souverain pontife. Aussi, c'est en France, vous devez continuer à l'appeler comme ça, souverain pontife. Mais la souveraineté du pape de la période, c'est surtout une souveraineté spirituelle, liée à la conscience, de quelque manière. Et aussi, si vous pensez à l'époque, nous avons un important concile. Le concile, c'est une réunion des évêques de tout le monde qui vont décider avec les papes des sujets liés à la foi, à la morale, à la discipline de l'Église. Dans ces conciles-là, on va parler de l'infaillibilité du pape au niveau de l'enseignement. Et c'est une manière à dire qu'il y a une souveraineté du pape sur les questions du foi. Alors, les papes, depuis 1870, n'ont pas un territoire sur lequel gérer un pouvoir matériel, territorial, mais un pouvoir simplement spirituel. Et quand il va exercer une fonction internationale, c'est lié à la fonction du chef de l'Église catholique. Aussi sans avoir un pouvoir territorial. Parce que, comme vous savez, à l'époque moderne, le pouvoir était conçu simplement comme un pouvoir lié au territoire. Sans territoire, rien pouvoir. Maintenant, dans notre culture actuelle, nous avons des autorités aussi pas gouvernementales, pas gouvernemental, au-dessus des mouvements, qui ont pouvoir sans territoire. Aussi dans la diplomatie multilatérale, l'ONU, c'est un pouvoir, mais sans territoire. Et oui, c'est une représentation des autres pouvoirs territoires, mais il y a aussi l'Union européenne. Oui, il y a un territoire, mais ce n'est pas un vrai territoire, c'est plus une idée d'autre manière. Ou les différents rassemblements. Alors, les pouvoirs jusqu'au 19e siècle étaient pensés simplement liés au territoire. Mais il y avait des États qui étaient plus proches du siège, qui voulaient faire rentrer une autre fois les Saint-Sièges dans les dynamiques internationales, dans les congrès internationaux. Mais comment faire? On commence à changer un peu les vocabulaires. Si on parlait normalement des États qui participaient au congrès, on commence à parler, ce moment-là, des puissances. L'idée des puissances n'est pas liée simplement territoire. aussi les Saint-Siège tant que tel est un pouvoir, c'est une puissance, mais pas territoire, lié au territoire. Alors, et aussi au niveau international, il y a un changement de vocabulaire pour dire une réalité. Mais tournons au passé, pardonnez-moi, si j'ouvre différentes parenthèses, pardonnez-moi, et rappeler à l'ordre, avec la cloche, hein, la
cloche, si, voilà.
Oui, c'est l'université, nous avons le rappel qui est terminé la première ère maintenant. Et les étudiants ont 15 minutes de pause.
Nous, il n'y a pas 15 minutes de pause.
Non, rien. Vous n'êtes pas étudiant. Mais oui, professeur, c'est plus sérieux. Parce que les étudiants, il y a toujours les Wi-Fi dans l'université. Alors, on trouve toujours les étudiants à prendre des notes, ou quoi. Mais il y a WhatsApp, il y a Facebook, des milliers d'avions, les gens, etc., etc. Alors, il n'y a pas la police. De la vie, quelquefois oui. Alors, à cette période-là, c'est le siècle, et le pape est un souverain pontife, il a un pouvoir territorial, il y a déjà des institutions qui aident le pape, mais il y a une réforme. Et cette réforme va donner une nouvelle structure. Regardez là, nous avons 15 congrégations, mais c'est sympathique. Parce que regardez le numéro 13. Oui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si. On voit la congrégation des eaux, des ponts, des routes. C'était une congrégation de l'État. Oh, il y a aussi la congrégation navale, la congrégation de la typographie. Alors, c'est vraiment une question liée à Rome et à l'État. Mais nous ne devons pas parler de ces congrégations-là. Ça, peut-être un jour vous pouvez être intéressé pour des autres questions liées à l'État, parce que avec la cité de l'État, cité du Vatican, aussi cet État-là est lié à l'Interpol pour l'échange des renseignements, des informations. C'est important, c'est un réseau international de sécurité, pas mal. Aussi des questions liées à la finance. Le Vatican est lié, on a parlé sur la presse plusieurs fois, on parle souvent de la banque du Vatican, c'est vraiment une petite banque. C'est une banque petite dans n'importe quel état au niveau d'argent qu'il va gérer. On parle souvent de ça, un peu ridicule parce que c'est vraiment une petite banque. Mais, c'est important avec les réseaux internationaux être allié. Alors, tant que BAC qui est au-dedans d'un État, d'un petit État, il y a les réseaux liés à la finance. Alors, ces questions-là peut-être vous intéressent, mais sont liées au Vatican et pas au Saint-Siège. Souvent aussi dans les journaux, on utilise les mots d'une manière synonyme. Vatican, Saint-Siège, on peut bien comprendre, mais on doit distinguer parce que le Vatican, c'est l'État. Et Saint-Siège est la réalité liée au pape au-delà de l'État. Quand il n'y avait pas l'État entre 1870 et 1929, il y avait toujours le pape et Saint-Siège. Et il y avait toujours aussi les ambassadeurs. Par exemple, l'ambassadeur français est resté jusqu'à 1905. Et en 1914, il y avait aussi un concordat, c'est-à-dire un accord diplomatique international entre les Saint-Sièges et la Serbie. Oui, un petit pays, mais c'est toujours un accord international, sous le droit international. Alors, il n'y avait pas un État, un territoire, mais il y avait des accords internationaux. Alors, on doit distinguer entre Saint-Siège et Vatican. Saint-Siège et État pontifico. Saint-Siège et cité du Vatican. Voilà. Ces congrégations-là, que vous avez aussi visitées, sont structurées d'une manière plus plutôt uniforme. Il y a une congrégation des cardinaux, c'est-à-dire une réunion des cardinaux, qui sont dédiés à lier des dossiers sur les matières qui sont soumises. Parmi les cardinaux, il y a un qui est le chef de la congrégation, qui s'appelle préfet. Ce n'est pas un préfet d'État comme sous les territoires comme en France, en Italie, nous avons les mots préfets pour la coordination des matières de police, de sûreté, représentant de l'État, du gouvernement. Mais c'est le nom de celui qui est au sommet de la congrégation, le préfet. Au-dessus de lui, il y a des secrétaires qui n'est pas un cardinal, mais un prélat, c'est-à-dire un évêque ou archevêque. Au début, souvent, n'avait pas d'ordination épiscopale, c'était un monseigneur de dignité haute, comme un prélat, mais pas avec la dignité sacramentaire. C'est changé sur la période. Alors, cardinal préfet, qui est du même niveau des autres cardinaux. Secrétaire, qui est au niveau plus bas, mais qui organise toute la secrétaire, les travaux. Et dans la longue période, dans la dernière période de la modernité, on a aussi un sous-secrétaire qui va gérer des fonctions toujours plutôt matérielles. Pour nous, c'est intéressant de penser qu'un cardinal pouvait faire partie de plusieurs congrégations. Et il y a des cardinaux qui sont tout puissants parce qu'ils sont présents dans toutes les congrégations. Mais en même temps, il y a des cardinaux qui sont plus spécialistes, qui sont présents simplement dans certaines congrégations. Alors, il y a des congrégations plutôt politiques, si je peux utiliser ces mots-là, et des congrégations plutôt pastorales, doctrinales, religieuses, de quelque manière. Et on peut comprendre les voix des cardinaux en voyant dans quelle congrégation ils siègent. Dans la période entre le 19e siècle et le 20e siècle, toute la structure de la curie va être un peu repensée parce qu'il n'y a plus les pouvoirs de l'État. Il n'y a plus, c'est terminé. Alors il y a une conversion de la mission. D'abord, c'était mis sur la curie territoriale et universelle. On va laisser tomber l'universel et le territorial pour avoir uniquement une mission universelle, générale. C'est à cette époque-là qu'il est ses sièges commencent à gérer un rôle international, pas simplement lié à la péninsule italienne ou d'équilibre simplement strictement européen. Parce que aussi le monde changeait. Et début 19e siècle, il y a des siècles, nous avons l'indépendance des républiques de l'Amérique du Sud. Jusqu'aux années 20, toutes les affaires religieuses de l'Amérique du Sud, Amérique centrale, l'Amérique latine, espagnole, portugaise, les affaires ne passaient pas par Rome. C'était les couronnes, les rois de Madrid et Lisbonne qui décidaient tout, les nominations des évêques. Il y avait un conseil dédié simplement aux questions religieuses des colonies. Les Saint-Sièges ne décidaient rien. Il y avait une délégation depuis les 15e, 16e siècle. Mais à cette époque-là, avec les nouvelles républiques, à cause du libéralisme qui a créé un conflit avec l'Église, alors il y a moins de relations, alors l'Église va changer au-dedans d'elle. Le Saint-Siège va prendre à la main pour la première fois un pouvoir qu'il n'a jamais eu dans l'histoire. Et aussi grâce aux gouvernements libéraux. Parce que les gouvernements libéraux commencent à faire aussi une guerre à l'Église catholique, c'est-à-dire aux évêques, et l'évêque, pour sauvegarder eux-mêmes, garde vers Rome. Vous connaissez la situation française, jusqu'à la Révolution française, et aussi début du XIXe siècle. Il y avait des gallicanismes. Une idée d'une Église nationale très liée au roi, aussi si avec les jansénismes il n'y avait pas toujours une bonne relation, mais une Église gallicane, une forte identité nationale. Mais quand on commence à faire la guerra d'Église, les évêques qui étaient toujours liés au roi, qui étaient nommés par les rois ou par les présidents de la République, ils doivent nécessairement garder à Rome, au pape, pour pouvoir trouver un allié qui va sauvegarder l'Église française. Alors, dans l'hétérogénie de l'histoire, on passait la guerre à l'Église pour la rendre plus faible, pour changer le niveau social du pays, mais on donnait une union plus forte de l'Église nationale à Rome. Ce n'était pas l'idéal de l'État libéral, mais c'est l'élu qui a rejoint malgré lui. L'histoire, c'est toujours amusant. Oui. Alors, mais vous connaissez qu'encore en France, le président de la République était nommé des évêques dans des diocèses, Metz et Strasbourg. Tant qu'il est catholique, c'était l'accord qui était dans les concordats de 1801. Comme il est aussi chanoine de la basilique de Saint-Jean-Baptiste. Toujours quand il y a un président femme qui va être chanoine. C'est la première fois de l'histoire. Je ne sais pas ce qui passera. J'attends parce qu'on a la même mise, toujours la langue vespre, les chanoines et les dames. Alors, mais tournons aux choses plus sérieuses. Qu'est-ce qui se passe? Que après la période du XIXe siècle, nous avons une curie vraiment large de structures. Nous avons 21 congrégations, 3 tribunaux, 3 bureaux, 6 secrétariats. Vous connaissez la secrétaire d'État maintenant, et la secrétaire de l'économie. Mais à l'époque, il y avait beaucoup plus de secrétaires. Et il y a une différence parmi secrétaires, entre une secrétaire, entre une secrétaire et une congrégation. Parce que la congrégation a une structure collégiale. C'est une union des cardinaux. On peut faire la guerre de la congrégation, des différentes opinions, différentes vues. Mais de la secrétaire, il n'y a pas la collégialité. Il n'y a pas des cardinaux, il y a simplement des cardinaux secrétaires. Il y a les cardinaux secrétaires d'État, oui, qui a les substituts, les secrétaires pour les rapports avec les États, mais ce ne sont pas cardinaux, ce sont des évêques au niveau plus bas. Parce que la vie ecclésiastique, c'est toujours hiérarchique comme la vie militaire. Oui, alors, les colonels prédisent ce qu'il veut, je pense, plus ou moins. S'il y a le général, il est général. Alors, la secrétaire d'État, comme les autres secrétaires, ont au but, au sommet, les secrétaires. Il n'y a pas la collégialité des cardinaux. Alors, la secrétaire, c'est une structure pyramidale. La congrégation, une structure collégiale. Ce sont des différents modèle de gouvernement. Peut-être la secrétaire est plutôt rapide, efficace. La collégialité va demande plutôt passage. C'est trouver un accord. Quelquefois, c'est possible, la majorité des fois, c'est possible, mais nous savons qu'il y a des situations, nous voyons dans les archives, où il y a des conflits avec entre, parmi les cardinaux, on devait représenter la question de notre foi, deuxième foi, troisième foi, ça dépend. Et quand il y a des décisions prises, nous connaissons aussi des situations dans lesquelles des cardinaux qui n'étaient pas satisfaits vont recourir directement au pape pour chercher à changer. Parce que la décision des cardinaux, après, doit passer au pape. Il y a la congrégation, mais la décision n'est pas prise par les cardinaux et présentée au pape, par les préfets ou les secrétaires. Et le pape, il peut changer. Voyons l'histoire. Les papes Léon XIII. Dernière partie du XIXe siècle, il acceptait les décisions des cardinaux, n'a presque jamais changé les décisions. Le pape Benoît XV, le pape de la Première Guerre mondiale, dans les verbales, nous voyons, il acceptait. Mais un autre pape que vous connaissez, peut-être un Pélier Pie XI, qui était le pape de la période dans laquelle on va reprendre les relations diplomatiques France et Saint-Siège, ces papes-là étaient un peu caractériels. On a vu dans plusieurs études qu'il a changé souvent les décisions des cardinaux. Pour certaines congrégations, les 40% des décisions prises par les cardinaux sont changées par le pape lui-même. Quelquefois, ce sont des petites questions, et des autres fois des grandes questions. Alors, nous avons une structure collégiale, mais l'État a un pouvoir qui va au-delà de la collégialité. Il y a des papes qui sont vraiment respectués de la collégialité parce qu'ils sont grandis de la Curie romaine et ils connaissent la dynamique de la prise de décision. Alors, c'est une garantie dans la décision terminale parce qu'elle est passée par plutôt avis. Vous pensez qu'un terme est délicat, qu'est-ce qui se passe normalement? Et sans convoquer les consultants de la congrégation qui va donner ce qu'on appelle vote, c'est-à-dire, en français, comment on peut dire de manière courante, avis. On va donner un avis sur la question des dossiers. Et les dossiers dédicats, ça dépend des congrégations à l'offre, ne sont pas étudiés simplement par un consulteur ou des consulteurs. Mais il y a une réunion des consulteurs qui vont discuter sur la question. Et souvent, il y a aussi des avis contraires. Après, on doit arriver à une certaine unanimité. Après, le dossier-là va passer à la réunion, à la séance des cardinaux. Il y a une autre discussion, après il va arriver au pape. Mais les dossiers qui réservent les consulteurs et les cardinaux sont composés par des avis qui arrivent par l'annonciature, qui est la représentation diplomatique du pape dans le pays, qui a déjà des avis des autres consulteurs sur le territoire. Alors il y a un processus décisionnel qui est plutôt long. Par exemple, de manière aussi pour des questions plus religieuses que politiques. Faire des sangs, des vénérés. Et il y a tout un processus diocésaine, et un tribunal avec des témoignages, on va prendre des extraits écrits. Et après, il arrive à Rome. Il y a des contrôles, et après, il y a une réunion des nefs consultaires qui étudient toute la position et vont donner des avis. Après, ils vont cardinaux. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont décider. Alors, tournons au slide, pardonnez-moi. Dans cette période, quand le pouvoir est changé, il n'y a plus de pouvoir territorial, simplement universel, on va faire la réforme. Il y a une simplification. Presque moitié des congrégations, moitié des secrétaires. Quelle est l'idée? C'est optimiser des structures, rationaliser les structures des églises de la Curie romaine. Et c'est toute la période, c'est la langue aussi dans les autres réformes, hein, qui vont simplifier, ajuster, mais quelle est une direction claire que nous trouvons présente dans toutes les réformes du début du XXe siècle, moitié XXIe siècle. Il y a une centralisation du pouvoir de la Curie sur la secrétaire d'État. Dans l'époque moderne, l'élite plus puissant était la congrégation de la doctrine de la foi, c'est-à-dire les Saint-Office, l'Inquisition. On l'appelait la suprême congrégation, le suprême tribunal. Quand on parlait de la suprême, on parlait d'elle. On devait simplement dire la suprême. Mais, après le XIXe siècle, il y a un autre balancement du pouvoir, et c'est la secrétaire d'État, c'est-à-dire la dimension politique, qui va prendre plus de place sur les questions dogmatiques, doctrinales. Et c'est la secrétaire d'État qui va tout coordonner de la Curie, aussi dans les relations avec les États, les épiscopats, la communication externe. Mais nous arrivons à nos jours. On doit aller, je ne sais pas quelle heure. Oui, j'ai parlé depuis 33 minutes. Les 3 minutes encore?
Ah oui, 5 minutes.
Parfait, merci. Nous avons toujours des réformes. Après la fin des processus, après 60 ans, nous avons eu la grande réforme, c'était le siècle. Après, jusqu'au 20e siècle, aucune réforme. C'est une structure qui avait un point important. On n'a pas réformé parce qu'elle marchait bien. Mais au 20e siècle, nous avons la réforme des Pinis, 1908. Après la réforme des Paul VI, 1967, la réforme de Jean-Paul II, 88, trois réformes en siècle, hein, 80 ans exactement, et maintenant, en cours, il y a la réforme de Pape François. Quatre réformes dans un siècle. Ça va dire qu'il y a un problème. C'est évident. Mais quel problème? Parce que si les gens modernes, selon les études des chercheurs, est né imitant l'Église, peut-être c'est bizarre d'écouter ça, mais l'État moderne a été bâti sur ses fondements propres dans l'imitation de l'Église catholique. Dans la dernière modernité, nous sommes en processus inverse. C'est l'Église qui va imiter l'État moderne. Quand on parle de la primauté juridictionnelle du pape au Vatican I, Conseil Vatican I, quand on parle de la infaillibilité de l'enseignement du pape, on utilise une manière de penser le gouvernement de l'Église tant que les taux que les États. C'était une imitation. La bureaucratisation de la Curie romaine va suivre, pas anticiper, mais suivre la bureaucratisation que nous avons en France, en Allemagne, au XXe siècle, au XIXe siècle. C'est le même processus d'imitation, mais et quand on parle. Quand l'Église, du 17e siècle, parle que l'Église est une société perfecte, società perfetta, ce n'est pas pour dire que je suis la meilleure au monde, mais pour dire que je suis une institution perfecte qui ne dépend pas de l'État. Qui était la réalité perfecte, l'institution perfecte? C'était l'État, complet à lui-même. Et tous les rassemblements devaient être au-dedans de l'État, au XIXe siècle, on cherche à parler de l'Église, libre Église, dans un État libre. C'était un mot, un slogan. Mais c'était Église libre dans un État libre, Mais l'Église, non, je ne deviens pas de l'État. Je suis indépendant de l'État. Je suis une société perfecte, societas perfecta, en latin. Alors, elle va utiliser la terminologie juridique de l'État pour se défendre de l'État. On va utiliser les catégories de l'État pour se défendre de l'État. Par exemple, les premiers codes du droit canonique, c'est 1917. Après un siècle, les premiers codes napoléoniens. Les premiers codes, ce sont des Napoléons. Sont à vous. L'Église va arriver un siècle après, quand il va imiter l'État aussi dans la codification. Parce que jusqu'à ce moment, il y avait plusieurs lois de l'Église. Du premier millénaire chrétienne. Les décrets du Moyen-Âge, les décrets des congrégations romaines, les décrets des constitutions des conciles. Dans cette année-là, 1917, il y a un code, le premier code pour l'Église latine pas orientale, qui va donner une information du droit. Alors, il y a toujours une limitation dans cette époque de l'Église vers l'État. Il va penser elle-même une grammaire étatique pour se défendre. Alors, dans ces moments-là, nous avons aussi des réformes des dates du Saint-Siège qui vont donner une uniformisation, une pyramidisation de la structure sous la secrétaire d'État. Mais aussi vont avoir devant les yeux des critères plutôt pastoraux. Et après, proche des congrégations, nous avons aussi conseils pontificaux. Conseils pontificaux qui sont des structures similaires aux congrégations, c'est-à-dire toujours des rassemblements des cardinaux, qui vont parler des questions pastorales, pas juridictionnelles, pas politiques, de manière propre. Et après les conciles Vatican II, dans les congrégations sont présents pas simplement des cardinaux, mais aussi des évêques. Des évêques qui viennent des diocèses parmi tout le monde entier. Alors il y a des cardinaux français qui au minimum, aussi des évêques français qui minimum une fois par an, ils doivent venir à Rome pour les grandes sessions des congrégations ou des pontificales français dans lesquelles ils sont présents. Mais s'ils sont plus dynamiques, ils peuvent arriver plus souvent en Rome. Par exemple, il y a la congrégation des évêques, c'est-à-dire la congrégation qui va donner la nomination, qui va décider des évêques. Et il y a des cardinaux qui sont dehors de Rome, qui sont membres de la congrégation. Alors, s'il y a des nominations sur la France, je peux bien imaginer que les cardinaux français ou prélats français qui sont de la congrégation vont arriver à Rome pour donner leur avis, pour bloquer quelqu'un ou faciliter quelqu'un d'autre. C'est les réseaux personnels. Alors, il y a les travaux ordinaires, les réunions ordinaires avec la prise de décision. Et il y a une grande réunion une fois par an des cardinaux de la congrégation sur les sujets généraux, sur les grands horizons des travaux. Mais si l'homme désire donner, avoir une influence, on doit vivre plusieurs fois dans des réunions ordinaires. Maintenant, nous sommes dans une situation. Des changements. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les conclaves de 2013, vous vous souvenez peut-être, combien de journalistes sont dans la salle? Sont déjà partis peut-être? Un, deux. Alors, vous vous souvenez qu'après l'émission du table de 2016, sur la presse, il y avait beaucoup de bruit sur la situation de la Curie romaine. Qu'est-ce qui passera? À ce moment-là, les méchants, oh non, les mauvais, on dit, enfin, les méchants, c'est pour les animaux, vous voyez? Les méchants étaient les curiales, les cardinaux curiales de la Curie, et surtout les italiennes, désolé. C'était les méchants du moment. Les papes avaient donné des démissions, on trouvait écrit sur les journaux parce qu'il y avait des problèmes de la Curie, des problèmes des finances, la corruption, etc., etc. Et les problèmes venaient surtout des Italiens. Il y a toujours un anti-italianisme dans l'Église catholique, dans la période moderne et contemporaine. On peut le trouver aussi dans les documentations des archives. On voit aussi des propostes anonymes des réformes de l'écurie au XXe siècle, en première partie, qui disaient toujours des Italiens sont des problèmes. Voilà. Je dois le dire, je n'aimais pas, mais je dois le dire. Qu'est-ce qui passe à ce moment-là? Qu'il y a un problème dans les compréhensions des cardinaux avant les conclaves, ils parlent des problèmes de l'écurie. Et une des premières décisions du pape François après l'élection, c'est la création d'une commission cardinaliste, on l'appelle le conseil des 8, après le conseil des 9, si 8 ou si 9, je ne sais pas comment on l'appelle en France, et qui doit aider les papes pour le gouvernement universel de l'Église, pour donner leur avis et pour la réforme de la Curie romaine. Et c'est la première fois dans l'histoire que la réforme est faite par des hommes qui ne sont pas membres de la Curie, qui ne sont pas des curialistes. Parce que les réformes passées sont toujours faites par des hommes de la Curie. Et dans les conciles, des évêques avaient demandé nous voulons réformer la Curie. Le pape Saint-Paul VI avait dit c'est à moi, pas à vous. J'ai fait la réforme de l'année 67. Maintenant, c'est la première réforme faite par des hommes qui ne sont pas membres de la Curie, sauf qu'un, en réalité. Les autres sont des Curies. Qu'est-ce qui passe? Il y a la réforme. La réforme qui va créer des nouvelles structures, des nouveaux secrétariats, la secrétaire de la communication, la secrétaire de l'économie, des nouvelles conseils pontificaux et aussi des nouveaux dicastères. Ça s'appelle dicastère, mais il n'y a pas une qualification claire. Alors, il y a une question maintenant. Quel est le modèle de la réforme? Alors, il y a la semaine passée, on a vu la publication de la réforme de l'État. Du Vatican et est sorti un mot propre qui a réformé les infrastructures de l'État. Je dois encore l'étudier, je dois dire, je ne suis pas préparé, désolé, parce que je devrais étudier avec une procédure synoptique pour mieux comprendre. Mais nous attendons, si les journalistes attendent dans un moment, la réforme de l'algorithme tant qu'elle. Quel va prévaler? Quel est le modèle? C'est un modèle collégial selon l'ecclésiologie du Vatican II, ou plutôt un modèle apical? On dit en français apical? Piramidal, comme les secrétariats. Quel est le modèle? C'est l'efficace de la réponse dans un monde global où j'ai un secrétariat? Ou c'est préféré un processus décisionnel qui va mettre en place toutes les forces sur place? Alors, ce sont aussi des modèles différents de l'Église, des modèles différents à gérer l'Église. Maintenant, nous avons plusieurs modèles. Qu'est-ce qui va passer? Nous pourrons le voir dans les prochaines semaines parce que nous attendons cette réforme. Alors, toute cette structure de la curie va aider les papes pour gérer des situations. Les rapports avec les églises locales, je ne parle plus des églises nationales, c'est un peu changer les concepts, et gérer les rapports avec les États. Alors, il y a des congrégations qui vont aider pour une certaine question, et des congrégations qui vont aider pour des autres questions. Les passages nécessaires, la clé. Les passages nécessaires, pardonnez-moi, c'est l'annonciature. L'annonciature, c'est la représentance du pape, les nonces, et la secrétaire des nonces, près l'État et les églises. Quand il n'y a pas des relations diplomatiques, nous n'avons pas les nonces, mais on l'appelle délégués apostoliques, qui va représenter les papes simplement devant l'église locale, pas devant l'État. Un exemple que vous connaissez bien. Les papes Jean XXIII, qui a été nonce en France, avant il était délégué en Turquie. Quand il était délégué pour être reçu par les présidents ou quelques ministres, souvent il devait demander l'aide de l'ambassadeur français ou italien. En France, tant que nonce, c'est-à-dire avec la documentation, les passeports diplomatiques et les rangs diplomatiques, il peut accéder au ministère, au ministère des Affaires étrangères ou aux autres ministres, de manière directe, sans les médiations des autres. Alors, c'est important la distinction parce que tant que nonce, il y a une représentation immédiate. Alors, et avec cette structure-là, la curie et la structure dans le monde, le pape va gérer ses renforts. Et quelquefois, il peut demander des questions, et d'autres fois, ce sont les États qui vont présenter des questions qui sont à cœur. Normalement, les questions sont liées à nos jours, on parle toujours des droits humains. Surtout là, dans les pays où il n'y a pas un vrai respect des droits humains, parce qu'après le Conseil Vatican II, dans les discours des deuxièmes sièges, on parle toujours de la liberté religieuse, qui est aussi la manière pour. Attaquer de manière gentille les régimes communistes. Parce que la liberté religieuse, c'était un point faible des régimes communistes. Alors après les meetings de Helsinki, où il y a la nouvelle manière de gérer les relations internationales, et la liberté religieuse va entrer dans les droits humains accepté par tout le monde et va être utilisé par les sièges pour s'élancer avec les pays communistes. Après la chute du communisme, un autre droit va être plutôt utilisé. Ce n'est plus les droits religieux, mais plutôt les droits à la vie. Les questions liées à l'avortement et à l'euthanasie. Et maintenant, on parle souvent plus de la liberté religieuse, et c'était une question aussi très actuelle aux États-Unis, où il y a des intéressants think tanks qui parlent de ça, dans le monde catholique et dans les universités catholiques, parce que c'est une question de liberté religieuse et bien délicate dans plusieurs pays dans le monde où il n'y a pas de liberté religieuse, pas à cause du communisme, mais pour des fondamentalismes. Normalement, dans la majorité des pays islamiques, où il y a les lois qui empêchent la conversion, par exemple. Il y a beaucoup de situations dans plusieurs pays où on doit cacher les livres de baptême parce qu'on peut être pris et pour persécuter des personnes. Nous avons des conversions au christianisme, mais l'époux va les cacher à l'épouse et vice-versa. Sinon, il va risquer la vie. Souvent, on doit changer de pays. Alors, maintenant, dans le discours diplomatique international, la liberté religieuse est devenue centrale dans ce point. Il y a beaucoup de colloques sur ça. Et après, il y a toutes les questions liées aux droits sociaux. Si la Révolution française avait plutôt préféré parler des droits individuels, de la fin du XIXe siècle, on parle toujours plus des droits sociaux. Aussi, la question est plutôt délicate nos jours. Et vous connaissez les derniers jours en France mieux que moi. Et alors, les discours des saint sièges par la diplomatie va toucher toujours plus les questions du pas à nos jours, comme les discours de la liberté religieuse qui passe aussi dans la liberté de l'éducation, de la famille et de l'école. Et j'ai parlé plus des accords que nous avons pris, je suis désolé, et nous pouvons nous arrêter. Oui,
voilà. Bravo.